Donc je vous rappelle donc que je pourrais vous donner à la fin les références que je vais utiliser de la liste pour que vous puissiez continuer ce message et contrôler, je dirais, tout ce que j'aurais dit. Rappelez-vous qu'en fait, les dernières fois, nous avons parlé de l'Église. Nous avons eu un certain nombre de messages sur l'Église. Et en rappelant les missions de l'Église, notamment l'annonce de l'Évangile et la formation des disciples, sont les missions que le Seigneur a données à l'Église. Et j'avais fait un certain nombre de commentaires concernant le culte. Je disais que le culte n'est pas le centre de notre vie. Le culte n'a jamais été une mission donnée par le Seigneur. Et que l'omission, c'est plutôt, c'est avant tout l'annonce de l'Évangile et la formation des disciples. J'avais développé une partie de la formation des disciples et j'avais promis ensuite de parler de l'évangélisation, de l'annonce de l'Évangile. Donc, finalement, je ne veux pas tenir ma promesse. Ce matin, je ne veux pas finalement parler, je ne veux pas commencer la série sur l'annonce de l'Évangile, parce que j'aimerais faire une petite mise au point, parce que j'ai tellement parlé du culte, et certains pourraient penser que je condamne le culte. Mais il me semble que c'est important, le culte. S'il n'y avait pas le culte, je ne serais pas là ce matin pour vous parler. Donc j'aimerais faire cette mise au point concernant le culte ce matin. Qu'est-ce qui est attendu dans le culte? Pourquoi nous le faisons? Et il est important que je fasse cette mise au point pour que les choses soient claires dans la tête de tout un chacun, avant que nous parlions du sujet vraiment qui nous tient à cœur, l'annonce de l'Évangile. Alors, je pourrais vous poser la question dès ce matin, à votre avis, pourquoi vous venez ici le dimanche matin? Okay. Voilà, pourquoi vous venez au culte? Est-ce que vous avez des... Pour me faire plaisir, d'accord? Bien sûr, hein, j'ai compris.
C'est mon travail.
D'accord, c'est le travail du pasteur. D'accord.
Pour nous ressourcer.
Voilà, pour nous ressourcer.
Pour entendre la parole.
Pour entendre la parole.
Pour retrouver les frères et sœurs.
Pour
augmenter la foi.
Pour augmenter la foi.
Pour la maintenir.
Pour la maintenir. Tout ça, c'est vrai. Hein. Est-ce que vous avez d'autres raisons de venir au culte? Pour approfondir la connaissance de la parole. D'accord.
Pour me ressourcer.
Pour me ressourcer
après
cette
semaine.
Voilà, c'était dit tout à l'heure. Pour me ressourcer, d'accord.
Et pour prier aussi davantage.
Pour prier.
Pour rendre, comme ce matin, j'ai pas l'occasion, hein, toute seule, pour
De prier.
De prier puis de rendre.
De rendre gloire à Dieu. D'accord. Ouais. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ces réponses. Ça a été dit. Rencontrer des frères et des sœurs. Nous avons parlé dans les missions de l'Église, le fait de nous retrouver, la communion fraternelle. Donc le culte nous permet aussi de faire ça, de louer Dieu, c'est tout à fait vrai, de nous retrouver ensemble pour louer Dieu ensemble, parce que nous allons voir qu'on ne le loue pas que ici. Donc le louer ensemble entre frères et sœurs, recevoir l'enseignement, voilà, ça a été dit. Il y a aussi quelque chose peut-être qui a été oublié, c'est partager le repas du Seigneur. C'est ce que nous venons de faire. C'est une occasion pour partager le repas du Seigneur et aussi prier ensemble, comme ça a été dit. Prier ensemble. J'insiste sur le mot ensemble. La Bible nous dit que Dieu envoie une bénédiction particulière quand les frères se réunissent, les frères et sœurs se réunissent. Le psaume 133, qui est un psaume qui est assez court, j'aimerais vous le relire et voir cette promesse de bénédiction que Dieu nous donne dans ce psaume. Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il y a quelque chose qui nous est dit ici, le fait de se retrouver ensemble, Dieu envoie une bénédiction particulière. Donc, on sent qu'il y a ce besoin, Dieu voudrait que nous se retrouvions ensemble pour nous bénir. Donc voilà, c'est une raison pour laquelle aussi, une des raisons pour lesquelles nous sommes là, nous recevons une bénédiction particulière quand nous sommes réunis ensemble. Et je pourrais poser une autre question, qu'est-ce qui fait finalement que nous nous retrouvons ici? C'est-à-dire, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui fait que nous nous rassemblons ici. Si cette chose ne s'était pas passée, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est?
L'appel de Dieu.
La foi.
La croix. Notre
conversion. La croix, c'est-à-dire, oui. Plus précisément, c'est...
La foi, la résurrection.
Bon, moi, j'aime bien les choses extrêmement claires. C'est-à-dire que j'entends la réponse, mais un chrétien, un bon chrétien comprend, mais j'aimerais qu'on dise les choses simplement.
Pardon.
J'ai entendu la croix, mais la croix, si je dis à quelqu'un dans la rue la croix, il ne peut pas comprendre. C'est quoi?
Le sacrifice.
C'est parce que Jésus s'est sacrifié que nous sommes là ce matin, sinon on ne serait pas là. C'est la seule raison. S'il n'y avait pas ce sacrifice, on ne serait pas là ce matin. Et donc, pour nous, quand on vient au culte, ça doit être vraiment la première chose qui nous anime, enfin qui nous encourage. C'est parce qu'un jour, il y a eu un sacrifice. C'est la seule chose qui fait qu'on est là. S'il n'y avait pas eu ce sacrifice, on ne serait pas là. Donc, ça fait que quelque part, si nous venons, c'est pour remercier avant tout pour ce sacrifice. Parce que c'est ce qui nous amène ici. C'est ce qui a changé notre vie. Donc, la première raison pour laquelle nous sommes là, c'est parce que quelqu'un a donné sa vie. C'est parce qu'il y a eu un sacrifice. Et donc, nous venons avant tout pour rendre gloire à Dieu et pour exprimer notre reconnaissance. Parce qu'il nous a donné la vie. C'est surtout pour ça. Et dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 28 et 29, il est écrit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. » C'est parce que nous avons reçu un royaume que nous sommes venus exprimer notre reconnaissance. Donc le culte, c'est avant tout pour exprimer une reconnaissance parce qu'on nous a donné le royaume, on nous a donné la vie éternelle. Donc, c'est pour ça que il est important dès le départ, dès le début du culte, de rappeler le sacrifice. C'est ça le moteur de notre venue, c'est ça qui fait qu'on est là, c'est pour ça que nous allons louer, c'est pour ça que nous allons remercier. Donc, dès le début du culte, il est important de le dire, pour que vraiment on soit dans un esprit de reconnaissance dans le culte. Et quand je faisais la présidence du culte, j'avais choisi de commencer le culte par le repas du Seigneur. Chose qui ne se fait pas souvent. On a une certaine liturgie, et je me suis un peu inspiré de la description du tabernacle dans Exode chapitre 40. Et là, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a le tabernacle, il y a un parvis, et quand on entre dans le parvis, est-ce que vous vous rappelez ce qu'on voit en premier? La toute première chose qu'on voit quand on entre dans le parvis du tabernacle. Est-ce que quelqu'un se souvient?
L'autel.
Exactement, l'autel des sacrifices. Il y a l'autel des parfums plus loin. Oui. Mais quand on entre, la toute première chose qu'on voit, c'est l'autel des sacrifices. Pour moi, c'est un modèle que Dieu nous donne. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, le tabernacle, tout ça, c'est un modèle qu'on nous donne. Il me semble que Dieu veut nous dire, quand vous entrez, tout de suite, sacrifice. C'est la première chose. Et nous, notre sacrifice, c'est Jésus. Nous n'avons plus besoin de refaire un sacrifice sur un autel. Mais quand même, commencez par penser à ce sacrifice. C'est la première chose que Dieu veut que nous voyions quand nous entrons. Tout de suite, pensez au sacrifice. Et quand j'ai pris conscience de ce sacrifice qui m'a donné la vie éternelle, je ne peux que le louer. Je ne peux que rendre gloire. Et ceci avec enthousiasme. Parce que, je sais pas, la joie que je peux avoir de me dire, ça y est, j'ai la vie éternelle, une vie parfaite avec Dieu pour l'éternité, mais je peux exprimer ma reconnaissance de façon totale. Comme David. David n'avait pas honte de louer Dieu. J'aimerais vous rappeler une petite histoire de David qui se trouve dans le deuxième livre de Samuel. Chapitre 6. Et je vais lire les versets 13 à 16 et puis 20 à 22. Et on voit comment David avait un cœur de reconnaissance envers Dieu. Alors, quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et elle dit: quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal: c'est devant l'Éternel qui m'a établi, qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vite que cela. Et m'abaisser aux yeux, à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Donc David nous dit, j'ai pas honte. Dieu m'a fait roi. Aujourd'hui, Dieu nous a fait roi. Il dit, mais pourquoi j'aurais honte devant les hommes pour danser devant Dieu, pour lui exprimer ma reconnaissance? Il était roi d'Israël. Je ne sais pas si vous imaginez le statut du roi et qui danse devant le peuple. C'est fini. Mais David dit, mais c'est devant l'Éternel. Je n'ai pas à avoir honte puisqu'il m'a donné la royauté. Donc il danse. Même les gens peuvent me regarder comme ils veulent. Il danse devant l'Éternel parce qu'il sait ce qu'il a obtenu. Il sait qu'il a obtenu la grâce de Dieu. Il y a quelques cantiques comme ça qui nous rappellent ça. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Voilà, je danse comme David parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Si Dieu m'a donné son esprit, je danse comme David. C'est par contre, je danse. Et comme disait tout à l'heure Olaf, nos chants sont des prières. Je pense que si nous n'adhérons pas à des paroles d'un chant, nous avons le droit de ne pas les chanter. Et parce que ce que je dis, ça m'engage. Et voilà, donc quand je chante, je prie, je mets mon cœur. Et donc tout ce que je dis, c'est vrai. Il y a un chant qui dit nous levons, voilà, je fais. Nous levons nos mains vers toi, et nous te contemplons, et nous t'adorons.
Plus
voilà.
Encore,
très
encore.
Voilà. Ou
je lève les yeux.
Voilà. Donc nous chantons des choses comme ça, où
Dieu est la source de ma joie. Voilà.
Nous avons des chants, parce que quand nous chantons, nous nous engageons. Donc si je n'y crois pas, nous avons le droit de ne pas le chanter. Mais quand je le chante, ben, je le fais vraiment. Voilà. Et même d'ailleurs, il y a des gens pour qui il est difficile de se lever pour chanter, pour louer Dieu. Je comprends qu'il y a des gens qui ont des problèmes de station difficile, enfin de station debout difficile. Mais des jeunes qui, quand on leur demande de se lever pour louer Dieu, waouh, c'est pénible. Là. On voit ça parfois. Se lever, mais se lever. Mais je suis devant le roi des rois qui m'a donné la vie éternelle. Voilà, juste pour le respect que j'ai devant le Dieu de l'univers, je me lève. Et on parlait tout à l'heure aussi d'élection. Quand on voit dans les meetings des hommes politiques, les gens se lèvent quand le candidat arrive. Ils sont en extase devant le candidat, ils chantent leur candidat, mais ils se lèvent, ils peuvent plus s'asseoir parce que le candidat est là. Et nous avons un candidat, mais enfin, il n'est même pas candidat, il est élu. Mais se lever, c'est vraiment un signe de révérence. Et devant Dieu, mais ça devrait être spontané. On a envie de se lever parce qu'il est là, Jésus est au milieu de nous. Voilà. Et parfois, on trouve que les gens ont du mal, par exemple, à se lever pour chanter Dieu. Et finalement, on a l'impression que les gens assistent au culte. J'insiste bien sur ce mot. On assiste au culte, un peu comme on assisterait à un spectacle. On s'assoit confortablement et on assiste. Il y a même des assemblées où il y a ce qu'on appelle des groupes de louanges. C'est-à-dire que le groupe de louanges, c'est un groupe, il y a des musiciens, quelques chanteurs. On appelle ça le groupe de louanges. Alors moi, j'ai jamais bien compris, parce que j'ai pensé toujours que le groupe de louanges, c'était l'assemblée. Alors donc, mais dans l'église, il y a des groupes de louanges. Alors, les autres, ils font quoi? Alors donc, évidemment, donc, il y a le groupe de louanges qui se produit, et les autres assistent. Voilà, donc moi, même le vocabulaire me gêne parfois quand on parle de groupe de louanges. Parce que l'assemblée est le groupe de louanges. Il y a un groupe de louanges donc, qui se produit, et moi j'assiste à la prestation du groupe de louanges. On a même l'impression de plus en plus dans les assemblées qu'on assiste à un concert. Il y a cet esprit de concert qui est entré dans les assemblées. On assiste vraiment à un concert. Et on le voit même au niveau sonore. Il y a des assemblées, mais on a envie de sortir tellement on a mal aux oreilles. Tellement la musique est à tue-tête. On est vraiment à un concert. Littéralement un concert. Beaucoup d'assemblées ont pris ce virage vers le concert où toute la louange est un concert. On n'a plus le temps de se recueillir. On a même parfois mal aux oreilles. Et c'est triste de vivre ça. Et moi, j'ai comme l'impression que quelque part, on pallie l'absence de l'Esprit Saint. Plus l'Esprit s'écarte de l'assemblée, plus on monte le son. Moi, c'est l'impression que j'ai. C'est-à-dire que, normalement, quand l'Esprit est là, on n'a pas besoin de crier autant. On sent quelque chose, il y a une ambiance, mais comme on sent qu'il n'y a plus rien qui se passe, on monte le son. Pour meubler un peu. Voilà. Et on trouve ça de plus en plus dans les assemblées. Alors, quelqu'un me dira, oui, si on prend le psaume 150, verset 5, il est dit, louez avec des cymbales sonores, louez-le avec des cymbales retentissantes. C'est vrai, mais il faut de la sagesse. C'est pas parce que le psaume dit ça, bien sûr, on loue avec des cymbales sonores, mais de la sagesse. Mais quand ça devient juste un concert, je pense que ça pose un problème. Parce que nous devons vraiment prendre conscience de la présence de Dieu. Je trouve que beaucoup ne réalisent pas que Dieu est au milieu de nous. Quand Jésus dit, lorsque deux ou trois sont rassemblés, je suis au milieu d'eux, c'est une réalité. Il est là. Et donc, on doit avoir une attitude. Parce que le roi de l'univers est au milieu de nous. Et donc, avoir une profonde révérence dans la présence de Dieu. Et donc, que le culte ne soit pas simplement un amusement ou un spectacle, mais c'est vraiment, on est en présence du roi de l'univers, du seigneur de l'univers. Et à ce moment-là, si on prend vraiment conscience de ça, si on met Dieu à sa place, il fait vraiment descendre quelque chose, sa présence. On va sentir sa présence. Il y a dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 5, il y a quelque chose d'intéressant ici concernant la gloire de Dieu qui se manifeste. Dans la louange, si on loue Dieu vraiment de tout son cœur, mais avec sincérité, Dieu manifeste quelque chose, manifeste sa gloire, manifeste sa présence. Et j'aimerais vous lire les versets 13 et 14, où il est ici question de louange dans le temple. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours, en ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Quand on loue vraiment Dieu d'un cœur sincère, avec une grande révérence, Dieu manifeste sa présence. Et c'est vraiment extraordinaire quand on prend un culte, on sent ça se produire. On sent quelque chose. Ce que les gens appellent l'onction de l'esprit. Parce que la présence de Dieu descend. Et on sent, tout le monde le sent, il y a. Voilà. Et ça, c'est beau. C'est extraordinaire. Pour ça, il faut une attitude de révérence, pas le concert. Mais vraiment, on peut louer Dieu. En fait, ce qui est bon aussi, c'est que moi, j'ai assisté à des cultes où on loue Dieu avec tout son cœur. Et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi. On le sait. Le niveau baisse. Les gens commencent à chanter doucement. Et il y a un silence qui s'installe. Tout le monde a senti que le Saint-Esprit est descendu. C'est extraordinaire. Personne ne le dit, taisez-vous, mais hop, Dieu descend. Et tout le monde le sait, hop, ça se calme. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. D'autant plus que dans ces moments-là, il y a souvent des paroles qui sont données. Quand tout le monde se tait comme ça, hop, il y a une parole qui se lève, soit une parole en langue, avec une interprétation qui suit, ou une parole, une prophétie. Mais c'est extraordinaire de vivre ça, la gloire de Dieu qui descend parce qu'on le loue, et qu'on est dans une attitude. Et tout le monde se tait sans qu'on le dise. Et quelqu'un qui se met à parler, le Saint-Esprit commence à parler. C'est extraordinaire de vivre ces choses-là, parce que Dieu nous a donné son esprit, avec des dons. Nous connaissons ces dons de l'esprit qui sont donnés dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et ces paroles de sagesse que Dieu nous donne pendant notre réunion, des paroles de connaissance, des paroles en langue, avec l'interprétation. Et j'aimerais juste rappeler quelques versets 7 à 10, où on nous parle de ces manifestations des dons de l'esprit, l'expression de ces dons. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de connaissance, à l'autre une parole de sagesse, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre les dons des guérisons, par le même esprit, à un autre un don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Tout ça, ce sont des choses que Dieu a promises pour son Église. Encore faut-il que nous mettions les conditions qu'il faut pour que ces choses s'expriment. Parce que Dieu est fidèle à sa parole et c'est souvent dans la façon dont on se présente devant Dieu que Dieu agit. Et souvent Dieu nous demande de l'ordre et de la bienséance dans notre façon de l'adorer. Et j'aimerais vous donner un petit témoignage concernant cette notion de bienséance. J'étais dans une assemblée chrétienne où on pouvait donner chacun un enseignement le mardi soir. Chacun pouvait apporter un petit enseignement biblique. Et un jour, j'avais demandé à donner un enseignement sur les dons de l'esprit. Et donc, j'ai donné cet enseignement une fois, un mardi, le mardi suivant. J'ai voulu parler de la bienséance dont nous parle la Bible, dans la manifestation des dons de l'esprit. Et parce que je trouvais que dans notre assemblée, c'était un peu bruyant. Les prières se faisaient, à mon avis, à mon sens, dans tous les sens, très très fort. Les gens parlaient en langue sans aucun discernement. C'était... Pardon ?
Cacophonie.
Une cacophonie globale. Voilà. Et ça me paraissait bizarre que le Saint-Esprit puisse être dans tout ça. Et donc, ma deuxième séance d'enseignement consistait à lire le chapitre 14 de la deuxième lettre aux Corinthiens. J'ai lu le chapitre 14 et à la fin, j'ai dit j'ai terminé mon enseignement. Parce que je n'avais pas de commentaire à faire. Il me semble que Paul dit tout dans ce chapitre 14. Et j'aimerais vous lire quand même quelques passages de ce chapitre 14 que j'avais lu à l'époque, mais bon, le chapitre étant un peu long, je vais lire juste les versets 1 à 6, 19 à 19, 26 à 31 et 39 à 40 pour aller vite. Mais je vous encourage à aller relire tout ce chapitre pour voir ce que l'Esprit nous demande dans notre comportement pendant le culte. Paul nous dit, ici c'est l'Esprit qui nous parle à travers Paul, rechercher la charité, aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église reçoive l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. C'est pourquoi celui qui parle en langue, qu'il prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Autrement, si je rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends grâce, il est vrai. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez, les uns et les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une parole, une interprétation, que tout se passe pour l'édification? En est-il qui parle en langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur a pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit aussi la loi. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous dis est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez donc au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Je crois que tout est dit. Je n'avais pas besoin de commenter ça. Mais figurez-vous que, après avoir donné cet enseignement-là, j'ai été poussé gentiment vers la porte et j'ai dû quitter l'assemblée. À partir du moment où j'ai donné cet enseignement, on m'a fait comprendre que ma place n'était plus dans l'assemblée. Alors que je n'ai fait que lire la parole de Dieu. Je n'ai même pas donné de commentaire. J'espère que vous n'allez pas m'exclure. Alors, en fait, ce qui est important ici pour moi, c'est la bienséance. On va dans une assemblée où c'est vraiment... Merci. Je n'osais pas le dire, n'importe quoi. Voilà. Et quand l'esprit est là, l'esprit est un, comme il l'a dit, c'est un Dieu d'ordre et non de désordre. Donc on doit le sentir. Il faut qu'il y ait de la bienséance et je dirais aussi de la discipline. C'est un mot qui a la même racine que disciple. Nous sommes des disciples. Donc il nous faut de la discipline. Et ne serait-ce que par rapport à la ponctualité. Bon, il peut arriver qu'on ait des soucis pour arriver à l'heure au culte. Mais il n'est pas bon que ce soit une interdit. On peut avoir des problèmes, des imprévus. Mais parce que nous sommes des disciples, nous sommes disciplinés. Et il ne faut pas que le retard, par exemple, soit systématique. Alors, il y a des trucs, on va dire. Par exemple, c'est que notre culte commence à 10h30. Moi, je me suis fait un truc qui peut peut-être marcher pour vous. C'est que dans ma tête, le culte commence à 10h15. J'ai oublié 10h30. Et donc, je vise 10h15. Et il m'arrive d'être en retard sur mon horaire de 5 ou 10 minutes. Or, j'arrive à 20. Ou 20 ou à 25. Mais je suis quand même à l'heure, finalement. Parce que je ne sais pas ce qui peut arriver comme imprévu. Donc, chacun peut se donner un truc en disant, voilà, mon culte ne commence pas à 10h30, il commence à 10h15. Ou lorsque je vais prendre un train, je n'arrive jamais à l'heure où le train part. J'arrive avant. Pour pouvoir prendre le train à temps. Et ceci pour ne pas louper quelques miettes de louanges qu'on va rendre à Dieu. De louanges qu'on va donner à Dieu. C'est, en fait, c'est moi qui perds, finalement. Je loupe une partie de ce qui se passe. Non, je ne veux rien louper. Je ne veux pas louper une miette. Donc j'arrive avant pour démarrer avec tout le monde et ne rien louper. Et je pense que il est aussi important de comprendre que le culte n'est pas le centre de la vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens ont pris le culte comme le centre de leur vie. Et je ne pense pas du tout que ce soit ce que le Seigneur nous demande. Nous devrions avoir, par exemple, un culte familial intense, ou un culte personnel. Au moins, le culte personnel doit être, je dois avoir un vrai culte personnel quotidien. Et ce sont des choses que Dieu nous demande, et je reviens toujours à notre cher modèle David, dans ce domaine. Dans le psaume 119, il dit plein de choses comme ça, et j'ai pris quelques versets pour montrer un peu comment il était en culte permanent. Tous les jours, il était en culte. Il n'attendait pas le Shabbat, le samedi pour aller au temple, mais c'est tous les jours qu'il était en culte. Et je vous lis trois versets, le 164, le 62 et le 148. C'est David qui dit « Sept fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. » Sept fois le jour, il dit. « Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Je devance la veille et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Voilà le culte de David. C'était pas un jour. C'est le jour, la nuit, il lisait la parole de Dieu. Voilà, il méditait la parole, il priait, il louait Dieu tout le temps. Et le chrétien, il appelait à ça. C'est notre vie est un culte. Notre vie est un culte. Et nous devons vraiment chercher à développer une relation personnelle forte avec le Seigneur. Et ce n'est pas au culte que ça se développe. C'est vraiment tous les jours. C'est ma vie, ma communion personnelle avec Dieu qui fait que je vais développer cela. Et aussi, lorsque je fais la présidence, j'aime bien distribuer les paroles des chants que nous chantons. C'est pour que chacun puisse continuer cela chez soi. C'est-à-dire que si je ne connais même pas bien un chant, j'ai les paroles. Et après, en famille ou tout seul, quand je loue Dieu, je reprends ces paroles et je les chante. En plus, lorsque je vais revenir au culte, je maîtrise les chants. C'est pour ça que j'aime bien distribuer ces paroles pour que vraiment le culte personnel continue. Parce qu'on a un support pour pouvoir chanter tout seul chez soi. Et il est dommage que certaines personnes passent plus de temps au culte avec le Seigneur que le temps qu'ils passent avec lui dans la semaine. Il y a une heure et demie par semaine passée avec le Seigneur. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Parce qu'on peut simplement consacrer un peu de temps au Seigneur, hein, tous les jours. Je me suis fait un petit calcul, c'est-à-dire que si je suis éveillé 12 heures, je suis disponible 12 heures par jour, en enlevant le sommeil, je trouve qu'en minutes, j'ai 960 minutes par jour où je suis éveillé, où je suis disponible. Et si je consacre 20 minutes par jour au Seigneur, je consacre à peu près 2% de mon temps au Seigneur par jour. Je pense que c'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. 2% de mon temps par jour. Si j'arrive à consacrer 20 minutes par jour dans la prière et la méditation de la parole, ce n'est que 2%, mais c'est énorme, je pense, pour ma relation que je crée avec Dieu. Donc nous pouvons tenter, hein, pour certains ça peut être 1%, 10 minutes, mais c'est bon de le faire, d'avoir tous les jours un moment avec le Seigneur. Hein, et non pas attendre seulement le dimanche matin. Dimanche matin, c'est autre chose, on ne peut pas vraiment développer ce cœur à cœur. Donc il est important que nous puissions développer ce cœur à cœur avec le Seigneur à travers la prière, et la méditation des Écritures. Tous les jours, passer du temps avec le Seigneur pour développer une communion forte avec lui. Et je pense que justement, c'est cette qualité, c'est la qualité de cette relation qui va faire qu'après, le culte va gagner en qualité. Parce que chaque membre, ayant ce cœur à cœur avec Dieu, quand on se retrouve là, c'est la côté. Et donc, certains attendent de venir travailler ça au culte, alors que ça devrait être l'inverse. C'est parce que j'ai travaillé cette relation avant que le culte va prendre une dimension exceptionnelle. Parce que nous avons une relation forte avec le Seigneur personnellement. Et c'est ça qui va faire que nous aurons une vie d'église plus riche. Parce que chacun est riche. Et après, on apporte. On vient mettre ça dans le creuset du culte. Alors pour conclure, j'aimerais simplement rappeler que le culte, c'est un rassemblement autour du Seigneur. Rappelons-nous que c'est vraiment, il est vraiment présent, parce qu'il l'a promis. Donc à chaque fois que nous nous rassemblons ici, nous sommes autour du Seigneur, et il promet une bénédiction particulière. Voilà, donc c'est bien qu'on se retrouve ensemble pour cette bénédiction, mais c'est surtout, ne venons pas simplement pour venir prendre cette bénédiction, mais c'est surtout pour venir donner notre reconnaissance. Parce que nous avons reçu le salut, parce que nous avons reçu un royaume inébranlable. Et c'est pour ça, avant tout, que nous sommes là pour venir lui dire notre reconnaissance, et ceci avec enthousiasme. Ne nous gênons pas de louer avec notre corps, lever les bras, parce que, danser. Mais les gens n'osent pas parce que pensera mon voisin ? On se dit pas. Mon voisin va me regarder. Mais David dit, mais regardez-moi, si même les servantes et les serviteurs me regardent, mais je danse. Donc si j'ai envie, je danse, parce que je prends conscience de ce que j'ai reçu comme héritage extraordinaire. Et ceci dit, que le culte ne devient pas non plus un concert, comme ça devient maintenant de plus en plus dans les assemblées. On peut être dans la joie, mais c'est pas un concert. C'est vraiment avoir prendre conscience de la présence de Dieu. Donc on a une attitude, le Seigneur de l'univers au milieu de nous. Imaginez donc, c'est ça, c'est vraiment la réalité. Et donc on se comporte par rapport à cette présence du Seigneur de l'univers. Donc il nous dit du recueillement. De temps en temps, à un moment donné on est dans l'enthousiasme, mais de temps en temps, hop, du recueillement. De l'adoration. Parfois on oublie l'adoration, on n'est que dans la louange, mais par moments, on peut se recueillir, on entre dans l'adoration. Et là, il y a des choses qui se produisent. Quand on entre vraiment dans l'adoration, les expressions des dons peuvent apparaître comme ça, parce qu'on entre dans ce recueillement où le Saint-Esprit commence à se manifester. Et lorsque ces dons, nous les utilisons aussi, Dieu nous dit de le faire avec bienséance. Que chacun, à son tour, puisse donner ce qu'il a reçu. Que chacun écoute, que les autres puissent dire Amen. S'il y a des paroles en langue, qu'on les interprète, des paroles en langue. Voilà, que tout ça se passe dans la bienséance. Et n'oublions pas non plus que le culte n'est pas le centre de l'homme chrétien. C'est quelque chose que nous venons mettre ensemble, ce que nous avons développé déjà avec le Seigneur. Ceux qui sont en famille, il est bon d'avoir aussi un culte familial. De temps en temps, de se réunir à la famille et puis lire la parole ensemble et prier ensemble. Voilà. Et après, ça va se ressentir dans notre culte. Et cette communion forte que chacun développe avec le Seigneur va permettre au culte d'avoir une richesse tout à fait particulière. Et donc, juste pour dire, que c'est la qualité de notre relation personnelle qui va faire aussi la qualité de notre culte. Donc, pensons-y, pour que notre culte soit un culte qui soit agréable au Seigneur et que vraiment nous puissions attirer tout le profit que le Seigneur nous promet. Que Dieu soit béni.
Amen. Amen. Amen.